franceinter.fr.
Il n'est pas seulement l'un des pères de la bande dessinée moderne, Hergé est sans nul doute l'un des plus grands créateurs du XXe siècle. L'exposition qui lui est consacrée, qui vient d'ouvrir au Grand Palais à Paris, donne la mesure de son génie graphique, avec cette ligne claire dont on voit l'évolution et la fabrication, avec des dizaines de planches originales et de crayonnés de Tintin, et aussi ces affiches publicitaires que, personnellement, j'ai découvert. Génie du récit, du rythme et du découpage. On a un cinéaste ici sur ce plateau qui pourra en témoigner. Génie romanesque avec ses personnages et cet imaginaire ancré chez des millions d'enfants, d'adolescents et d'adultes de plusieurs générations. On va ce matin explorer une partie, une petite partie du monument et tenter de comprendre ce qui nous plaît et nous fascine encore et qui plaît à de nouvelles générations puisque Casterman vend encore 3 millions d'albums de Tintin par an. Avec nous, trois passionnés. Bonjour Albert Algou.
Bonjour.
Vous faites paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de Tintin. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Écrivain et scénariste, on vous doit plusieurs livres dont cette biographie Hergé, fils de Tintin chez Flammarion. Et bonjour Bruno Podalides.
Bonjour.
Vous n'avez rien écrit, mais vous avez filmé, vous avez reproduit des références à Tintin dans la plupart de vos films. Et vous rêvez d'adapter Tintin au cinéma. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette œuvre ?
En fait, je rêve pas d'adapter Tintin au cinéma. Enfin, j'en rêve, mais je pense pas le faire.
Ah oui, d'accord.
Je pense que le problème de l'incarnation est difficile de trouver un acteur pour jouer Tintin. Ce premier obstacle, je le surmonte pas.
Mais
par contre, j'aime beaucoup les films qui tournent autour de Tintin. Donc, on a souvent cité Philippe de Broca ou Spielberg. Et puis, et moi, bah là, mon prochain film, ça va être Bécassine, qui est quand même. J'ai réalisé à quel point elle avait la tête de Tintin. Et elle a beaucoup de points communs. Elle aime la vitesse comme lui.
Elle a pas de bouche.
Elle a pas de bouche, exactement.
Elle a pas de bouche comme dans les premiers Tintins. Les premiers Tintins aux soviets et au Congo. Benoît Peters, même question. D'où vient votre fascination pour Tintin et l'œuvre d'Hergé?
Bon, je crois que toute fascination pour l'œuvre d'Hergé vient de l'enfance, de la toute petite enfance, oui. Avant même de savoir lire. Ce qui est étonnant, c'est que l'œuvre, pour moi en tout cas, j'ai continué à la lire pendant l'adolescence. Et quand j'étais étudiant, j'ai eu envie de comprendre pourquoi on arrivait à lire, pourquoi j'arrivais à lire cette œuvre à tous les âges. Et c'est une question que je suis allé poser à Hergé, et c'est une question que je me pose toujours aujourd'hui. Cette extraordinaire aptitude de transmission, bon, chez nous, de génération en génération, grands-parents, parents, enfants. Mais je suis allé récemment en Chine, où Tintin est très aimé, c'est le pays où Tintin est le plus présent aujourd'hui. Et là, on voit qu'il n'y a pas eu de transmission familiale, il n'y a pas la même culture partagée. Or, pour les jeunes Chinois, Tintin est chinois, Tintin est un des leurs. Ils aiment le Lotus Bleu, bien sûr, mais bien au-delà du Lotus Bleu, ils entrent dans cette œuvre. Et ça, c'est extraordinaire. Quelle œuvre créée en 1929 est aujourd'hui aussi vivante, aussi présente, aussi capable d'être lue par les enfants et les adultes? Je pense que la légitimation donnée par l'expo du Grand Palais, c'est génial. Le film de Spielberg, c'est formidable. Mais intrinsèquement, c'est l'œuvre, c'est le langage de la bande dessinée qu'Hergé a porté vraiment au plus haut.
Cette fascination, c'est ça que nous questionnons ce matin. Et parmi les 3 millions d'albums vendus chaque année, je citais ce chiffre tout à l'heure, 1 million, c'est en Chine.
En Chine,
1 million d'albums vendus par an.
Et ça grandit, bien sûr.
En Chine. Albert Algou, dictionnaire amoureux de Tintin, un amour d'enfance. Vous aussi, vous racontez dans votre livre comment, à 13 ans, vous avez eu cette émotion en découvrant les bijoux de la Castafiore tout en écoutant un air de musique tzigane à la radio. Mais c'était il y a quoi, un demi-siècle à peu près. Est-ce que vous savez
un peu plus, vous pouvez y aller.
Est-ce que vous savez pourquoi ça marche encore auprès des enfants d'aujourd'hui?
Pourquoi ça marche encore? Bon, il y a d'autres choses qui marchent. Aujourd'hui, il y a le manga, il y a les jeux vidéo. Il faut pas se le cacher.
Oui.
Mais l'intérêt pour Tintin qui perdure, c'est tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre préambule, c'est-à-dire la solidité, j'allais dire artistique de cette œuvre. On sent pas le travail, mais le travail est immense derrière, et le résultat, c'est une œuvre charmante. Je parle des albums canoniques, où aussi bien d'un point de vue scénaristique que graphique, on atteint. On va pas faire. Je fais pas dans la géographie, moi, mais la perfection, c'est-à-dire dans cet art qu'est la bande dessinée, qui était considéré comme un art mineur. Hergé est un très très grand artiste. Et puis, contrairement à ce que disent les détracteurs d'Hergé, c'est pas une œuvre moralisante. Souvent on dit oui, Tintin, boy scout de droite, mais pas du tout. C'est une erreur fondamentale. De même qu'on lui accroche des casseroles de manière totalement injuste, Tintin au Congo, etc. Alors que son œuvre a évolué.
On va en reparler un peu plus tard. On va reparler dans la deuxième partie de cet aspect-là, à la fois des.
Mais c'est
l'explication d'Hergé lui-même.
Cette œuvre est complexe. Et si elle n'était pas complexe, elle n'aurait pas duré comme elle dure. Hein. Il y a des fous, il y a des gens inquiétants dans Tintin. Bien sûr, il combat pour le bien. Mais Tintin, comme le disait Pierre Sterckx, qui est un ami commun à Benoît et à moi, qui est hélas disparu, il disait que Tintin était un personnage double. Il était fourchu. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai, il est pour le bien, il est raisonnable. Mais de l'autre côté, il est complètement déraisonnable. Et il est hanté, il est cerné par la folie. Dans Tintin, il n'y a que des dingues. Qu'ils soient gentils ou méchants, ils sont tous frappés. Ils sont tous très inquiétants, toujours aux limites de sombrer dans le désordre et la déraison. Et Tintin, il raccorde tout ça in extremis à chaque fois. Et ça rassure les enfants.
Et des dingues éternelles, puisqu'on a nos Philippulus aujourd'hui à peu près partout
bien sûr.
Dans le débat public. Benoît Peters.
Oui, autour de Tintin, une série de figures complètement inoubliables. Et je crois qu'Hergé a eu ce talent de se projeter au début dans Tintin, avec Milou qui faisait l'alter ego, mais au fur et à mesure des besoins, de faire venir d'autres personnages qui sont inoubliables. Pour beaucoup de lecteurs aujourd'hui, Haddock est encore plus présent que Tintin. Haddock est une personnalité capable d'évolution, c'est un vrai personnage romanesque. On imagine sa vie entre les albums, on le voit passer de pauvre alcoolique à châtelain un peu snob, puis à gentleman farmer. Il change sans cesse, Tournesol aussi a une carrière scientifique invraisemblable, et même les personnages secondaires, même des silhouettes quelquefois privées de nom, comme le garçon de café du crabe aux pinces d'or, on peut se souvenir de leur attitude, par exemple l'attitude hautaine de ce garçon de café qui rend la monnaie au Dupont d'un air souverainement méprisant. Les plus petits personnages qu'on aperçoit sont entrés dans nos imaginaires,
de même que
beaucoup de phrases. À un dîner avec des gens sérieux, tout d'un coup, vous allez citer un mot du capitaine Haddock ou de Tournesol, et ça y est, ça réagit, les sourires viennent sur les bouches, c'est quelque chose qui se mémorise. Ça aussi, c'est très rare.
Ou des situations, le sparadrap du capitaine Haddock. En ce moment, on l'entend dans la presse à propos de l'affaire Big Malion. C'est le sparadrap, c'est le truc qui se refile, dont il n'arrive pas à se débarrasser. Vous voyez, ça marque l'imaginaire des foules.
On a la planche originale du sparadrap du capitaine Haddock dans l'exposition du Grand Palais, avec le crayonné et ce découpage qui est éminemment cinématographique. Bruno Podalides, vous n'allez pas me contredire, c'est vraiment quelque chose c'est fascinant à voir, à regarder comment Hergé a construit cette planche avec ce sparadrap qui colle, ses plans moyens, ses plans serrés, rapprochés du capitaine Haddock. Il y a quelque chose de cinématographique. Les personnages, vous les citez, évidemment, ça fait partie de notre imaginaire, mais où sont les femmes? Question que vous posez, Albert Algout.
Le cri poussé par Patrick Juvet est repris régulièrement par beaucoup de commentateurs, de journalistes. Où sont les femmes? Il faut resituer la BD dans son contexte. Hergé, mais Spirou, où sont les femmes? Ses cotines, chez Franquin, Mademoiselle Jeanne, sont-ce des parangons de féminité ou de féminisme? Non, pas du tout. Et je crois que Benoît pourrait répondre mieux que moi là-dessus.
J'ai l'impression que
vous distribuez la parole.
Non, mais parce qu'il va être plus clair. Moi, j'ai pas l'esprit de synthèse.
Où sont les femmes? Moi, je dirais d'abord dans l'ambivalence de Tintin. Tintin n'est ni garçon ni fille. Tintin est un neutre. Et moi, je rêvais, quand Spielberg a fait son film, qu'il fasse jouer Tintin par une actrice un peu indéterminée, un peu, disons, une Jane Seberg d'À bout de souffle, un peu plus jeune. Je crois que ça aurait résolu tous les problèmes, parce que dans les albums, en réalité, Tintin est un personnage absolument au-delà de la sexuation.
Il est indéterminé. Il est indéterminé sexuellement.
Et les filles entrent très bien dans Tintin. C'est une des bandes dessinées qui a toujours été lue avec plaisir.
On a réuni trois hommes ce matin.
C'est votre responsabilité.
Trois passionnés. Vous connaissez beaucoup de
Ariane Valadier a écrit un livre remarquable sur Milou. Des entretiens avec Milou. Non, mais il y en a d'autres. Il y a un nombre incroyable de lectrices. J'ai oublié son nom, mais il y a un livre sur la Castafiore, outre le mien, la biographie. Voilà, qui a écrit un livre remarquable sur la Castafiore.
D'accord. Je me suis demandé en préparant cette émission, c'est si c'était un univers de mecs, les amateurs de Tintin.
Non, je pense pas. Ouais. Moi, je vais vous dire, j'ai été prof quelques années, j'ai redécouvert Tintin grâce aux enfants, et les filles étaient enthousiastes, et les lettres à la mort d'Hergé que j'ai reçues les plus émouvantes, c'est des filles, des élèves qui me les ont envoyées.
Enfin, je note quand même, il y a des femmes, évidemment, dans les albums de Tintin, mais plutôt des femmes, comment dire, mal aimable. Hein. Il y a une jolie femme, on la cite toujours, c'est Madame Clermont de Sept boules de cristal, mais c'est
celle qui est fouettée.
Ça vous a frappé, ça.
C'est un de mes premiers émois sexuels, je l'avoue ouvertement.
Tout à fait. Et elle revient à deux reprises, puisque dans il est frappé.
J'aimais bien cette scène.
Elle est fouettée par un homme.
C'est pour ça que depuis, je fais du cinéma.
Vous voyez que Tintin n'est pas convenable, c'est dans des journaux quand même patronnés par les curés. C'est extraordinaire. Toute la dimension de fantasme, l'alcoolisme de Haddock, les rêves, la momie de Raskar Kapak, tout ça dans des journaux journaux qui avaient l'air très convenables et qui pensaient éduquer comme ça, éduquer gentiment par
l'image. Ultra réac les journaux qui publiaient ça.
Alors, l'actualité de Tintin, c'est une adaptation radiophonique pour France Culture.
Formidable.
Par la Comédie Française avec l'Orchestre National de France. Il y a eu une première série d'épisodes, c'était tiré des Cigares du Pharaon. Et là, nous avons le Lotus Bleu qui arrive dans quelques jours, et je vous propose d'en écouter un extrait.
Comment vais-je faire pour trouver ce Mitsui Rato maintenant? C'est un nom japonais, bien sûr. Entrez.
Une lettre vient d'arriver pour vous, monsieur.
Pour moi, vous êtes sûr? Ça, par exemple. Comment sait-on déjà que je suis ici? Cher monsieur Tintin, j'apprends avec joie que vous venez d'arriver à Shanghai. Je ne puis vous exprimer mon bonheur à l'idée de pouvoir contempler votre glorieux et vertueux visage. Auriez-vous la bonté de me permettre de gravir votre escalier aujourd'hui à 3 heures? Mon serviteur attend avec respect votre réponse. Votre dévoué, monsieur Mitsui Rato. Ça alors? Voulez-vous dire au messager que son maître est trop aimable de vouloir se déranger? Je lui rendrai visite moi-même.
Bien, monsieur.
Je me demande bien comment il a pu savoir que je me trouvais ici, ce monsieur Mitsui Rato. Un homme d'une politesse raffinée, en tout cas.
Les Japonais, ça sont des bondis, Tintin.
L'entête de la lettre indique la rue de la Tranquillité. C'est plutôt de bon augure. Un petit tour de pouce-pouce, ça te tente, Milou?
Voilà, c'est Noam Morgenstern qui joue Tintin dans cette nouvelle adaptation radio des aventures de Tintin, le Lotus Bleu, qui sera diffusé sur France Culture du 24 au 28 octobre à 20h30. 5 épisodes coproduits par France Culture, la société Moulinsart et la Comédie Française. Ça le fait, comme on dit, Albert Algo?
Ah oui, 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 tout à fait. Moi, je trouve ça a beaucoup de charme. C'est très, très intéressant. C'est une approche de Tintin qui est différente. De même que moi, je m'amuse à relire des albums de Tintin dans des langues étrangères, en italien, en anglais, en allemand, et ça prend une saveur tout à fait différente parce qu'il y a un décalage entre le texte et les images, et je découvre des trucs dans les images que je n'avais pas aperçus précédemment. Et là, on découvre, je pense, autre chose. C'est une très belle approche.
Albert Algou, Benoît Peters, Bruno Podalides, on vous retrouve dans quelques minutes avec les appels des auditeurs de France Inter et puis d'autres questions autour de Tintin et d'Hergé, exposition depuis 2 jours au Grand Palais à Paris. Il est 8h33.